Comme je vous disais, c'est 10 degrés avec de la pluie. Puis après ça, on reste dans le positif. 4 degrés, 6 degrés, mais on reste dans la pluie aussi, malheureusement. On est en direct de l'International de l'Auto de Québec toute la semaine dans le Point de Max. Fait que oui, on parle de char pas mal, mais c'est pas une raison d'arrêter de parler de tout le reste. La Terre qui, évidemment, continue de tourner. Et on a le plaisir d'avoir au bout du fil Ruba Gazal, co-porte-parole de Québec solidaire. Madame Gazal, bonjour.
Bonjour, Monsieur Larouche.
Québec solidaire qui veut s'attaquer à l'intimidation en ligne. C'est ce qu'on pouvait lire dans différents médias ce matin. Ma première question avant de parler de ce que vous proposez, est-ce que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis plusieurs années déjà? Il me semble qu'on est en retard.
Ah, absolument, on est en retard. La cyberintimidation, la cyberviolence, c'est une réalité qui est de plus en plus présente dans nos vies, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. Ça n'a pas de bon sens d'avoir attendu aussi longtemps. En fait, il n'y a pas d'action en ce moment. Quand tu reçois de la cyberintimidation, tout ce que tu as comme recours, c'est d'appeler le 911 ou d'aller au poste de police. Il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à vivre avec de la cyberviolence en ligne tout seul.
Qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'intervenir? Est-ce que c'est un manque de volonté ou c'est que il y en a eu peut-être de la volonté dans les dernières années, mais c'est qu'il y a des défis liés à la cyberintimidation? T'sais, ne serait-ce que d'identifier une personne sur Internet, c'est niaiseux, mais ça peut juste être ça qui est difficile, qui fait que c'est plus de travail pour les autorités qui en ont déjà en masse sur leur planche à découper. Fait que qu'est-ce qui fait que c'est dur d'intervenir?
Ben en fait, je ne me l'explique pas. Vous savez, en ce moment, par exemple, moi, je connais quelqu'un, et on a vu ça beaucoup dans les médias, la personne va voir la police, puis le policier lui dit, ben ferme ton compte. C'est comme si c'était à la personne victime. Souvent, c'est des femmes, des jeunes. C'est à eux de se taire. Donc, on brime leur liberté d'expression, de pouvoir s'exprimer. On a tous maintenant une vie numérique. Là, ça fait partie de la vie de 2026. Puis c'est comme si c'est elles qu'on pénalise au lieu de pénaliser la cyberviolence, alors qu'on n'accepterait pas de la violence puis de l'intimidation à l'école, dans la société. En fait, on dit la raison pourquoi c'est difficile, je pense pas que c'est parce que c'est difficile. C'est juste une question de volonté, de penser en dehors de la boîte. En Nouvelle-Zélande, ça fait depuis 2014 qu'ils ont un système d'intervention de première ligne où quand tu subis de la cyberviolence, parce que des fois, c'est pas nécessairement des menaces qui sont dans le code criminel. Des fois, c'est juste des propos haineux que tu reçois puis que la personne reçoit, puis ça la met en... Elle se sent pas en sécurité, puis elle vit seule avec ça. Tout ce qu'elle veut, elle veut pas que la personne aille en prison. Elle veut juste que le comportement intimidant arrête. Et il y a pas beaucoup de recours. Mais en Nouvelle-Zélande, il existe un système où il y a une intervention, il y a des gens qu'on peut appeler 24 heures sur 24/7 ou on va sur un site en ligne. Ça s'appelle NetSafe. Et les gens, là, c'est très, très user-friendly, facile à utiliser. Tu écris, tu dis c'est quoi la plainte, tu fais un signalement, puis il y a quelqu'un au bout de la ligne qui te répond, qui peut t'aider pour que ce comportement-là arrête. Donc, nous, à Québec solidaire, on s'est inspiré de ce qui existe déjà en Nouvelle-Zélande et ça fonctionne très bien. Taux de réussite là, à presque 100%, là, rapidement, très efficace, très rapide et très peu de judiciarisation. Là, ça va rarement jusqu'à aller en cours. Donc, s'ils sont capables de le faire depuis tant d'années, pourquoi est-ce que nous, on serait pas capable de le faire au Québec? Et ça coûterait pas très cher pour le gouvernement de mettre ça en place.
Est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Tu sais, je pense à bien des domaines dans lesquels on manque de ressources. Puis ça, de ce que je comprends, ce serait un peu relié peut-être au domaine de la, ce soit de la justice ou de la santé avec des intervenants. Est-ce qu'on aurait les gens pour s'occuper de ça?
Oui, parce qu'en ce moment, souvent, par exemple, tu sais, je pense aux parents qui nous écoutent en ce moment, leurs enfants reçoivent peut-être de la cyberviolence, ils veulent pas aller à l'école. L'école, elle, est un peu prise avec ça, ils essayent de trouver des solutions. Après ça, si on appelle les policiers, ils interviennent pas. Fait qu'on fait travailler beaucoup de monde avec peu de résultats, peu de solutions. Et comme société, on devrait pas accepter ça, on devrait pas accepter toute forme de violence. Donc, ça permettrait de décharger les policiers qui reçoivent ce genre d'appel-là puis qui ne savent pas trop quoi faire avec ça. Puis un policier, sa job, c'est d'intervenir après qu'il y ait un acte criminel qui soit fait et non pas de faire de la prévention. Donc, cet système d'intervention d'assistance de première ligne, c'est pas juste une ligne pour écouter, puis aider, puis consoler les gens. Ça leur donne aussi du pouvoir à ces personnes-là, et on aurait la ressource pour le faire. Comme je vous dis, ça coûte pas cher. Là, nous, on a évalué ça à 10 millions de dollars par année. Donc, ces gens-là reçoivent les appels. Ça peut aller du conseil à la victime qui fait le signalement, jusqu'à même aller être habilité à intervenir auprès de l'auteur de la cyberintimidation pour lui dire « arrête ça là ». Et même jusqu'à aller aider la victime à chercher une ordonnance de la cour puis ça c'est léger là, c'est pas très compliqué là, pour l'envoyer à l'auteur de la cyberviolence pour qu'il arrête le comportement tout de suite. Et ça déchargerait en fait tu sais le système de justice, ça déchargerait les policiers, tout le monde serait gagnant au fond.
C'est une de vos premières annonces préélectorales chez Québec solidaire. Vous aviez oui. déjà émis des propositions fin janvier pour lutter contre la crise du logement, la hausse du coût de la vie. Est-ce que c'est oui. un peu ce que vous voulez faire chez QS, d'aller chercher des sujets qu'on se dit, il y a personne qui peut être contre ça, tu sais, je veux dire, la crise du logement, généralement, je pense que tout le monde reconnaît qu'il y a une crise du logement au Québec. Et même chose, le coût de la vie, ça vient toucher tout le monde. Les menaces sur Internet, tout le monde en parle depuis des années. C'est là-dessus qu'on veut se concentrer chez Québec solidaire, des sujets qui vont ratisser large?
Bien, en fait, c'est des sujets qui résonnent dans la population et en ce moment, il n'y a pas de solution. Vous parlez de la crise du logement, tout le monde est d'accord. Ben oui, tout le monde est d'accord avec la tarte aux pommes, mais le gouvernement a décidé de rien faire avec ça, de laisser le libre marché. Alors que nous, on arrive avec des solutions parce qu'on veut régler ces crises-là. C'est pas normal que les gens travaillent à temps plein, sont pas capables de payer leur épicerie, sont pas capables de payer leur loyer. On les voit, moi je les vois atterrir dans mon bureau. C'est pas des gens sur l'aide sociale en ce moment qui souffrent là, seulement là. C'est des gens qui travaillent à temps plein, qui travaillent fort, puis qui n'y arrivent pas. Nous, on n'accepte pas ça. Moi, j'accepte pas ça. Pour ce qui est des cyberviolences, moi, il y a peut-être 2-3 ans, à l'époque, c'était François Bonnardel qui était ministre de la Sécurité publique, qui a dit « je vais faire de quoi pour les cyberviolences ». Pendant ce temps-là, rien n'a été fait. Donc, vous dites que c'est consensuel, mais le gouvernement a décidé de rien faire avec ça. Moi-même, j'en ai subi de la cyberviolence, puis je veux dire, moi, je suis privilégiée, je suis une élue. Nous, on a un service où est-ce qu'on peut faire appel à la SQ, la Sécurité publique, pour nous aider. Et monsieur, madame, tout le monde, des jeunes, des femmes, beaucoup qui reçoivent ça, c'est beaucoup des menaces, par exemple, de viol, des choses comme ça. Ben, il n'y a rien qui est fait. Et là, voici des propositions qui coûtent un peu d'argent, mais qui permettent de trouver des solutions pour les problèmes que les gens vivent aujourd'hui. Donc, on a toujours été comme ça. À Québec solidaire, on trouve des solutions efficaces, concrètes, pour aider les gens dans des sujets qui sont leurs priorités en ce moment. C'est ça la priorité des Québécois, la crise du logement, la crise du coût de la vie. Les cyberviolences, on entend, c'est nos jeunes, les femmes, la sécurité, ben, c'est important. Fait que on sort en dehors de la boîte, puis on amène des solutions. Puis ça a été toujours ça notre force à Québec solidaire. Fait qu'un gouvernement de Québec solidaire, là, pour l'élection qui s'en vient, si nous, on est élus à la tête d'un gouvernement, on mettra en place ce système-là comme celui qui existe en Nouvelle-Zélande. On arrêterait de se plaindre puis de dire que ça n'a pas de bon sens, puis on agirait.
Vous parlez des priorités des Québécois. Est-ce que la souveraineté du Québec devrait être une priorité encore pour des partis politiques au Québec?
Bien, en fait, vous faites bien de poser la question parce que pour les Québécois, ils nous disent qu'en ce moment, puis ça, je le comprends très bien, l'indépendance, quand tu as de la misère à payer ton loyer, ton épicerie, quand il y a le chaos dans le monde, la guerre qui vient affecter les gens, le transport coûte cher, l'hydroélectricité, là, on a vu le Hydro-Québec va augmenter aussi ses prix. Donc, les gens n'y arrivent plus. C'est normal que quand tu te lèves le matin, tu ne penses pas tout de suite à vouloir devenir un pays. Moi, ça, je le comprends. Mais c'est pas une raison pour qu'un parti politique comme Québec solidaire, qui est un parti indépendantiste, de dire « parfait, on met de côté toutes nos convictions, tout ce qu'on pense qu'on est capable d'aller chercher comme moyen pour nous-mêmes, d'aller chercher notre argent à Ottawa pour pouvoir aider les Québécois. On va pas mettre ça tout de côté parce que les sondages, puis en ce moment, il y a un moment un peu plus difficile pour la vie des Québécois. C'est pas comme ça. Moi, c'est pas pour ça que je fais de la politique. Si j'ai des convictions, moi, je pense que on a besoin d'un projet d'indépendance qui soit inclusif, qui ouvre les bras aux gens qui viennent d'ailleurs, comme moi, une enfant de la loi 101. Je parlais pas un mot de français. Et à force d'apprendre c'est la culture québécoise, puis à aimer le Québec et les Québécois, parce que j'ai été très bien accueillie, ben je défends le Québec, je défends notre culture, mais je défends aussi le projet de vouloir devenir un pays. Ça, je mets pas ça de côté parce qu'il y a des turbulences, puis il y a un moment où est-ce que c'est plus difficile. Mais je peux comprendre, par exemple, que la population soit inquiète. Et pour ça, ben il faut être à l'écoute. Puis c'est pour ça que nous, on a un projet d'accession à l'indépendance qui soit pas juste croix ou mort, puis on fait un référendum. C'est un projet où est-ce qu'il y a une consultation la plus large possible, où on inclut tout le monde pour savoir pourquoi on fait l'indépendance et qu'est-ce que ça rapporterait au peuple québécois et aux gens qui sont inquiets en ce moment.
Mais rassurez-moi, si le Parti québécois est élu, fait un référendum, peu importe les conditions, Ruba Gazal, en tant que profondément indépendantiste, va voter oui.
Oui. Dans votre question, il y a beaucoup de si. C'est si le Parti québécois va au gouvernement. Puis là, il n'y a rien de plus instable en ce moment quand on regarde la politique québécoise. C'est très fascinant. Il y a des hauts et des bas. Les choses bougent. Il n'y a pas de chef à la CAQ. Donc, tout est encore en train de se décider. Moi, je viens d'arriver à la tête de Québec solidaire et je suis très résolue à parler des enjeux dont on vient de se parler, qui sont une priorité des Québécois, d'être à l'offensive. Fait que tout n'est pas joué. Après ça, si il y a un Parti québécois, s'il décide de ne pas reculer, comme tous les gouvernements du Parti québécois qui ont reculé sur la question d'un référendum, puis il décide d'aller dans un référendum, moi, Ruba Gazal, n'importe qui, c'est ça que je voudrais que ce soit Québec solidaire, mais n'importe qui, s'il y a demain matin, on se lève, puis il y a une question, est-ce que vous voulez que Québec devienne un pays, oui ou non? Moi, c'est sûr que la réponse va être oui. Mais moi, ce que je veux, c'est pas juste Ruba qui le fasse, je veux pas juste moi-même, je veux aussi inclure le maximum de Québécois, parce que pour avoir un pays, on a besoin de 50% plus un, et pour ça, il faut qu'on soit le plus inclusif et que ce soit le projet le plus attractif, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas en ce moment.
Ruba Gazal, co-porte-parole de Québec solidaire, un gros merci pour votre temps ce matin.
Merci, merci beaucoup, au plaisir.
Bye bye, Ruba Gazal, co-porte-parole de QS. On se parlait d'abord du parti qui veut s'attaquer à l'intimidation en ligne. Ruba Gazal qui mentionne que c'est une chose à laquelle on aurait dû s'attaquer il y a bien longtemps déjà. Nous donne l'exemple de la Nouvelle-Zélande qui depuis 2014 s'est attaquée au problème de l'intimidation en ligne avec un genre de programme d'aide qui est très direct, là, puis que souvent, cette simple première ligne-là, cet accès facile-là, permet qu'on n'ait pas à se rendre à la judiciarisation. Donc ça, c'est parfait. On vient tuer le problème à la source, au moment où il survient. Fait que c'est un peu la formule en Nouvelle-Zélande que Québec solidaire veut prendre, veut calquer et l'amener ici au Québec. Puis, tu sais, si c'est pas Québec solidaire qui le fait comme gouvernement quand on nommera un prochain gouvernement, je pense qu'il y a quand même des idées à prendre là-dedans définitivement. Puis des partis pourront s'en inspirer parce qu'à la base, hein, c'est supposé servir à ça d'avoir plusieurs partis. C'est qu'on se donne des idées puis qu'on avance ensemble. Puis il y en a des sujets comme ça. On n'est pas obligé tout le temps de se chicaner puis de pas être d'accord. L'Assemblée nationale, c'est supposé être faite pour faire avancer des dossiers. Je pense qu'on est tous d'accord là, pour faire avancer ce dossier-là concernant l'intimidation en ligne. Puis je vous rappelle qu'on est en direct de l'International de l'Auto de Québec, Sam Tremblay-Michaud, qui est mon collaborateur invité cette semaine. Puis on se parlait avant l'entrée.